Vous êtes sur RTL.
La parole.
Pascal Pro sur RTL.
Donc on est avec Jean-Charles qui ne croit pas aux annonces du président de la République. Bonjour ou rebonjour Jean-Charles, vous êtes délégué pharmaceutique. Pourquoi vous ne pensez pas que ce soit possible?
Alors déjà bonjour monsieur Pro, en préambule, je voudrais vous remercier de m'avoir contacté. Hein. C'est pas moi qui vous ai relancé, c'est vous qui m'avez contacté. Donc c'est très gentil et je voudrais pas monopoliser la parole. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent parler aussi bien que moi de ces sujets. Moi, en ce qui me concerne, et ce qui me dit qu'ils n'y arriveront pas, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, alors si on parle du vaccin Pfizer, on est bien d'accord, hein?
Non, là, on imagine que c'est vacciné, il n'a pas précisé quel vaccin. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez, il y a même un vaccin russe qui va arriver, il y a Moderna qui est là, il y a plusieurs vaccins aujourd'hui.
Oui, mais à en croire, alors effectivement, peut-être des gens qui n'ont pas voix au chapitre sur les grands médias, et je pense que ces gens-là ont des neurones pour réfléchir également, ont tout à perdre à annoncer parfois certaines choses, c'est que dans le protocole vaccinal, et ça c'est acté par, le laboratoire Pfizer, leur protocole vaccinal doit durer jusqu'en 2022. Mmh. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui se font vacciner servent encore dans leur protocole vaccinal. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'éminente généticienne Alexandra Henriot-Caude. Ça a été confirmé par le docteur Louis Fouché. Ça a été dit également par le professeur Joyeux. Donc, vous voyez, si ces laboratoires-là se donnent ce laps de temps, donnez-moi un argument pour lequel, au mois de juin ou à la fin de l'année, la France sera vaccinée. Je n'y crois pas une seconde.
Mais pour tout dire, je vous suis mal. Vous pensez que tout le monde n'ira pas à la vaccination ou vous pensez que nous n'aurons pas eu assez de doses?
Non, l'information nous laisse à penser que, produire de la dose, ce n'est pas aussi simple que ça. Et en plus, chaque gouvernement joue un petit peu cavalier seul pour essayer d'avoir le maximum de doses, parce que dans ce genre de choses, c'est...
J'entends bien, mais quelle est votre donc, défiance, elle vient d'où?
Non, c'est pas une défiance, c'est que dans... Vous savez, le propre de la science, c'est le doute. Hein. Et si des laboratoires aujourd'hui, comme les deux qui sont un peu retirés du jeu là, c'est donc le laboratoire français Sanofi, je crois, et puis j'ai oublié l'autre nom. Peut-être qu'ils se disent qu'avec cette nouvelle technologie, qui est donc l'ARN messager, qu'on ne maîtrise pas complètement.
Ben, si.
Comment?
Vous dites qu'on ne maîtrise pas complètement, elle est maîtrisée, Axel Kahn, je le cite très souvent, les scientifiques considèrent qu'elle est maîtrisée.
Oui, vous avez généticien spécialiste de l'ARN, la spécialiste Alexandra Henriot-Caude, généticienne spécialiste de l'ARN, qui ne pense pas comme M. Kahn.
Bon, mais moi, j'ai pas la compétence pour rentrer évidemment dans ce sujet. Mais ce que je comprends pas, j'entends bien, mais ce que je veux savoir, c'est
le protocole vaccinal.
Oui, mais
on vaccine pas comme on va acheter son paquet de tabac au bureau de tabac, monsieur Pro.
Mais j'entends bien, mais je comprends pas votre raisonnement. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous ne pensez pas qu'on sera tous vaccinés le 21 septembre?
Le 21 septembre, parce que ça, c'est mon intime conviction, mais ça n'engage que moi. Dans le protocole vaccinal, il est acté que ce protocole vaccinal doit se terminer fin 2022. Donc pourquoi voulez-vous que au mois de septembre...
Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Je dois voir où... Je ne sais pas si Grégory Cardi... Je ne comprends pas les deux. Je ne vois pas pourquoi, si ça se termine le protocole vaccinal fin 2022, je ne vois pas pourquoi on peut ne pas être tous vaccinés le 21 septembre.
Ça voudrait dire qu'à compter du mois de septembre, les laboratoires, le laboratoire qui... C'est mon sentiment.
Oui, mais je ne le comprends pas. Mais je n'arrive même pas à le comprendre. C'est ça que je vous explique. Je n'arrive même pas à comprendre votre sentiment, ce que vous voulez dire. Mais peut-être que c'est moi, hein, parfois, vous savez, je ne comprends pas tout.
Non, attendez, monsieur Pro. Moi, parce que, pour normalement, quand vous évaluez un médicament, il faut des années pour évaluer un médicament. Il faut avoir du recul.
Oui,
et
oui,
donc,
oui. Attends, mais j'arrive toujours pas à comprendre.
Si, si, ben, vous allez essayer de comprendre. C'est que ce recul, ils l'ont pas. Et pour pouvoir justement avoir tout ce recul, ils ont aujourd'hui déterminé que ça serait pas avant fin 2022.
Non, mais ça, j'ai compris aussi ce que vous dites là.
Ce qui veut dire que dans leur, il est impossible.
D'accord.
Parce que le protocole va se poursuivre, que fin septembre, toute la France soit vaccinée.
Bon. On bah, va écoutez, aller bien au-delà. Je pense que les auditeurs auront compris et voilà. Bon, c'est pas tout à fait clair, mais il n'y a pas de souci, Jean-Charles.
J'espère me tromper, mais.
Oui, mais je.
Voilà.
Non, mais c'est une possibilité. Merci en tout cas.
Vous devriez, je pense, parce que moi, je suis vraiment un simple citoyen. Je vous devrais peut-être inviter des personnes qui n'ont pas voix au chapitre et qui pour là-dessus pourraient avoir des arguments.
Ben, je pense
et les mettre en face à face de personnes comme Axel Kahn. Moi, j'aimerais bien, vous savez, un débat Alexandra Ohio-Cohn et Monsieur Kahn. Monsieur Kahn, qui depuis 40 ans arpente tous les plateaux de télévision. Ces gens-là qui donnent un peu le qui font la morale aux gens qui ont 70 ans passés, ça vient laisser la place à des gens plus jeunes.
Mais il y a peut-être aussi des raisons, parfois, s'ils sont des personnalités reconnues, comme vous dites, et qui peuvent s'exprimer au nom de leurs institutions, peut-être parfois qu'il y a aussi des raisons. C'est parce qu'ils ont une crédibilité très très forte. Vous pouvez l'admettre.
Dans le domaine de scientifique, par beaucoup de gens dans le domaine scientifique. Elle n'est peut-être pas connue du commun des mortels des Français, mais dans le domaine scientifique, elle est très connue.
Et alors, vous allez nous dire son nom. Elle s'appelle donc
Alexandra Ohio-Cohn, une généticienne spécialiste de l'ARN.
Ohio-Cohn. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'elle dit, cette dame. Pourquoi pas. 13h08. Je salue Monsieur Caranoni.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Moi, ça va plutôt pas mal, j'ai cette chance.
Il n'y a pas de Chandler aujourd'hui.
Ah non, arrêtez avec ça.
C'était bon hier. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, si on pouvait avoir des témoignages sur Richard Berry, vraiment, ça m'intéresse que les gens en pensent, pour tout vous dire. Par définition, sur le fond, on ne peut rien penser, hein, puisqu'on n'a pas accès et on ne sait pas. Mais il n'empêche, c'est un sujet dont on parle et la personnalité très forte de Richard Berry, la vedette de cinéma et de télévision qu'il est, fait réagir forcément. Et je disais tout à l'heure, où les faits sont avérés, c'est abominable, où les faits ne sont pas avérés, c'est abominable. Donc ça m'intéressait beaucoup de savoir ce que les auditeurs en pensaient. Céline, dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et l'ami Laurent Tessier est là, 13h11.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un vaccin pour tous les adultes avant la fin de l'été. Vous y croyez? Emmanuel Macron a pris la parole hier soir.
Nous avons aujourd'hui sécurisé au niveau européen environ 2,3 milliards de vaccins. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui certain. Ça signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été.
Partagez-vous cet optimisme, et bien qu'il arrête avec ses discours, s'énerve Thierry sur la page Facebook de l'émission. Juste pour nous faire croire aux vacances d'été, occupons-nous d'obtenir aujourd'hui les doses nécessaires. Pour Benjamin, c'est tout simplement de la poudre de perlimpinpin, ce que je retiens. Ainsi qu'on est le pays de Pasteur et incapable d'avoir rapidement un vaccin français, il y a un problème quelque part. Et où en êtes-vous, monsieur Macron, sur le renforcement des capacités, des moyens, des hôpitaux, demande Bernard. Mais l'espoir renaît, allez, applaudis, Axel, hein, je me ferai vacciner. Dès que ce sera possible, un choix partagé par Pierre. J'ai 71 ans, mais le rythme de la campagne est bien trop lent.
Céline est avec nous, qui est infirmière. Bonjour Céline, vous êtes soignante. Est-ce que vous êtes vaccinée?
Alors moi, je ne suis pas encore vaccinée, malgré ma demande formulée auprès de la médecine du travail et malgré aussi le fait que j'ai un facteur de risque associé.
Et cette demande n'a pas été prise en compte?
Alors, elle a été prise en compte, je pense, puisque j'ai rempli au téléphone un formulaire avec l'infirmière. Mais à ce jour, je n'ai toujours pas été recontactée, en sachant que j'avais contacté, je les avais appelés, c'était à la rentrée de janvier, donc vers le 4 janvier.
Et ça vous inquiète?
Non, ça m'inquiète pas. Enfin, ça me rassurerait effectivement d'être vaccinée, mais je pense qu'effectivement, c'est un tel fiasco à organiser que j'en suis pas plus étonnée que ça.
Bon, disons désorganisé en tout cas, pour le moment. En tout cas, pas complètement organisé. Le mot fiasco est peut-être un peu fort.
Oui, mais on a eu, vous avez eu sur votre...
J'essaye d'être positif depuis 4-5 jours.
J'essaye, depuis que Emmanuel Macron ne nous a pas tous remis sous cloche, j'essaye de voir un petit peu la vie en rose de ce point de vue-là.
Vous pouvez.
Je vous dis pas que j'ai raison, je me force peut-être, c'est la méthode Coué. Mais je me dis, voilà, vendredi, il n'a pas écouté les Cassandres et qu'il s'est adressé aux Français, il a dit soyez responsables, c'est à vous de faire les choses, etc. Donc j'essaye d'être un peu plus positif.
Il dit bien là dans son discours que l'État sera en mesure de proposer un vaccin. Il dit pas que les Français pourront être vaccinés.
Ah bah faudrait qu'ils le veulent, ça, les Français, après
oui,
c'est
non,
la responsabilité des Français.
Le voulait, évidemment. Vous avez eu sur votre antenne régulièrement des anecdotes de personnes qui ont voulu se faire vacciner, des personnes âgées. Je me souviens de deux anecdotes comme ça, de personnes qui devaient faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller se faire vacciner. Vous imaginez, et ça concerne pour le moment que des personnes âgées. Vous imaginez ça, transposez ça sur la population en général. Comment, au niveau organisationnel, c'est déjà pas au point, rien que pour les personnes âgées. Comment ils vont organiser ça sur toute une ville à échelle de toute la population, quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Et depuis janvier, regardez, je suis toujours pas vaccinée. Et j'ai des collègues qui ont plus de 50 ans qui ne sont toujours pas vaccinés également malgré leurs demandes.
Bah, c'est-à-dire que le 21 septembre, on est aujourd'hui donc en février. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est 8 mois. 8 mois complets. Donc...
Ah, mais il faut l'organiser.
Oui, mais il y aura plus de vaccins, il y aura plus de doses. Enfin, et puis je vais vous dire, c'est comme lorsqu'il avait dit Notre-Dame sera reconstruite dans 5 ans. C'est un objectif. Moi, je l'avais pris comme ça. Peut-être que effectivement, cet objectif ne sera pas atteint. Mais on peut pas tout reprocher en même temps. Parfois, on dit l'objectif n'est pas donné, la fin du tunnel n'est pas dite, etc. Là, il y a un objectif. Bon, fin de l'été, on doit tous être vaccinés. Faut y aller. Après, les objectifs, parfois, on n'est pas obligé Ils ne sont pas toujours atteints.
Mais... Moi, personnellement, je préfère qu'on ne me donne pas d'échéance et qu'on me dise clairement, on ne sait pas. Il n'y a pas forcément besoin de savoir.
Je vous adore, Céline, parce que vous pensez ça. Mais il y a plein d'auditeurs qui précisément disent, ah oui, mais on ne sait pas. Mais... On ne nous dit rien. Moi, j'aimerais qu'on nous donne un cap, un fixe.
On ne peut pas tout... Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'inédit qu'on vit actuellement. On n'a pas de recul sur une situation, on n'a pas un précédent, on n'a pas de précédent. Donc forcément, ils ne peuvent pas tout savoir. Le problème, c'est qu'ils s'engagent. Pour Notre-Dame, effectivement, c'est la même chose. Ils s'engagent,
c'est,
mais
ça, je trouve que c'est la même psychologie. C'est la même psychologie. Bon, Nicolas est là, restez avec nous, Céline. Nicolas est là, qui est soignant également, qui habite au Maroc, manifestement. Bonjour, Nicolas.
Bonjour Pascal.
Donc est-ce que vous pensez que c'est possible au contraire de Céline, tous vaccinés le 21 septembre?
Alors je pense que s'il s'est avancé, c'est qu'il a eu des projections quand même des spécialistes. Et c'est en comptant
sur... C'est ce qui me fait peur d'ailleurs, mais bon.
Mais c'est en comptant aussi sur les autres types de vaccins qui vont arriver. Et c'est vrai que quand l'auditrice précédente parle de la différence, la difficulté d'organisation, c'est qu'il va y avoir d'autres vaccins comme AstraZeneca par exemple qui vont pouvoir être dispensés par les infirmières et par les médecins en ville.
Donc, et même par les pharmaciens.
C'est ça.
Avec donc, une efficacité entre 60 et 70%, hein, il affiche des résultats moins flatteurs que Moderna et Pfizer, AstraZeneca.
Parce que c'est pas du tout la même technologie de vaccin, c'est la technologie à peu près habituelle. Effectivement, tous les vaccins sont efficaces autour de 70%. C'est le cas de tous les vaccins. Et ce qui compte, c'est la couverture vaccinale. Hein.
Mais il est facile à stocker, contrairement à Pfizer et Moderna, puisqu'il se conserve à la température d'un réfrigérateur, soit entre 2 et 8 degrés. Et c'est des conditions de stockage qui rendent possible la vaccination directement en pharmacie.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, le gros problème aussi de la France, c'est qu'on ne produit plus en France. Le secteur de la recherche, il est... On va pas dire au ralenti, mais par exemple, le vaccin de Pfizer BioNTech, c'est une société allemande, l'Allemagne consacre 3,09% du PIB à la recherche, et en France, on nous attend aux alentours de 2%.
Oui, mais alors ce qui est fou, si j'ose dire, c'est que vous avez suivi évidemment cette affaire du vaccin nantais qui va être commercialisé et utilisé en
en Angleterre. C'est la société nantaise Valneva qui va développer et produire un vaccin au Royaume-Uni. Et les citoyens britanniques bénéficieront en toute logique de 60 millions de doses bientôt produites. Et la France et l'Europe attendront 2022. C'est extraordinaire quand même, parce que c'est un vaccin français et nantais.
Mais il a été financé par la Grande-Bretagne. C'est ça le truc. Donc forcément, c'est ceux qui financent qui en profitent les premiers. C'est entre guillemets logique. Si vous payez quelque chose, c'est pour l'avoir. C'est pas pour le donner aux copains. Bon, après, ça peut être discutable, mais bon, ben voilà. Quoi. C'est
ben merci en tout cas, Nicolas. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous, parce que je vais quand même vous interroger tout de suite après pour savoir comment ça se passe au Maroc. Vous vivez au Maroc toute l'année ?
Oui.
Bon, vous allez nous dire comment là-bas l'épidémie est vécue. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On parlait de cette société nantaise Valneva qui va développer et produire son vaccin au Royaume-Uni. Et Nicolas disait, c'est normal, c'est les Anglais qui ont financé, donc ils vont être les premiers servis. Pas du tout. Christelle Morancet, qui est la présidente de région des Pays de la Loire. Depuis deux jours, elle fait beaucoup de tweets là-dessus. Elle a écrit, c'est un terrible sentiment de gâchis et d'incompréhension qui domine face à cet échec français et européen. Il est indispensable que l'État fasse preuve de beaucoup plus d'agilité, de réactivité pour soutenir et défendre nos entreprises. Et elle avait également écrit, la société nantaise Valneva va produire ce vaccin. Et elle rappelle que en juin 2020, elle avait écrit avec le préfet de Loire-Atlantique d'alors, qui s'appelait Claude Darcourt, un courrier à la ministre de l'Industrie pour l'alerter sur le formidable potentiel de la société Valneva installée à Saint-Herblain. Et bien cette lettre et les relances qui ont suivi sont malheureusement restées lettres mortes. Voilà ce qu'elle nous dit, Madame Morancet. Donc on a un système français qui paraît toujours étrange, qui ne réagit pas. On a une société nantaise qui produit un vaccin, on a une présidente de la région qui alerte le ministère et personne ne bouge. Et ben moi je comprends pas. Donc si Madame Morancet, elle veut nous appeler, ou si on l'appelle, je voudrais vraiment essayer de comprendre pourquoi personne n'a bougé. Le vaccin toujours, Stéphane est avec nous.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. J'ai bien entendu les propos effectivement de mes précédents collègues et je les rejoins totalement. On espère, je suis comme vous, j'essaie de garder une partie d'optimisme, surtout par les temps qui courent. Maintenant, je suis comme Céline, j'y crois peu, j'ai moins de 50 ans, j'ai fait une demande, j'ai pas de réponse non plus, je suis dans le vague. Déjà que j'avais décidé de ne plus travailler auprès des cas Covid n'ayant pas eu de prime, mais ça c'est un autre sujet. Et ça m'embête bien, j'aimerais bien, mais je n'ai pas de vaccin et je ne sais pas quand j'en aurai. Donc voilà, et je pense que je rejoins aussi le collègue précédemment du Maroc qui dit qu'on a délocalisé pas mal de choses et c'est ça qui, je pense, alors qu'on produisait certains médicaments en France de manière, comment dire, significative il y a quelques années, on a reculé les impératifs économiques peut-être de délocalisation, on y revient et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on ne produit plus rien et voilà, on en est là aujourd'hui.
Écoutez, c'est pas très réjouissant, mais notre tonalité ne l'est pas beaucoup. Vous pensez qu'on aura atteint quand même cet objectif ?
Non. Franchement, j'y crois peu. Je suis pas à l'aide du président, mais j'ai quand même voté pour lui et j'espérais dans sa façon de communiquer qu'il allait être différent. Je préférerais des politiques qui nous disent on va essayer, on va peut-être tout mettre en place pour, mais on ne sait pas. Effectivement, comme vous disiez, les gens sont dans le doute, ils ont envie d'avoir des échéances. Malheureusement, c'est une science qui n'est pas exacte, la santé. On peut pas dire que 1 plus 1 égale 2 et que ça sera tel jour. Donc, par contre, on peut effectivement donner des projections, mais en restant honnête. Et c'est ça, je pense, qui nous manque aujourd'hui chez les politiques. Moi, je préférais un politique qui me dise, on va essayer de faire ça, on n'y est pas atteint, comme vous disiez, l'objectif, on s'est trompé, on le reconnaît. Qu'aujourd'hui, personne ne... Enfin, ils n'ont jamais reconnu quoi que ce soit. Ils sont toujours dans le politique de rebondissement, de rebondir sur un autre sujet pour jamais dire on s'est trompé. Je prends un exemple de... Je crois que c'était un ministre canadien. Quand il a annoncé le reconfinement pendant les fêtes, la façon dont il a annoncé qu'il a communiqué en disant « Je suis le gars en pleurs qui vous dit « Je vais vous faire perdre votre Noël », ce message-là, je l'entends beaucoup plus que quand on fait du bricolage et qu'on, c'est comme l'histoire des masques, il n'y a pas de responsable, il n'y a jamais de. J'aurais préféré qu'on nous dise on a merdé, voilà, on va essayer maintenant de faire ça, ça et ça dans telle ou telle date, et puis à chaque date on réévalue, effectivement. Ça me laissera plus d'espoir et de sentiment de sécurité que là, voilà, moi je peux pas être vacciné, je sais pas quand je vais l'être non plus, parce que je suis dans une tranche d'âge de 49 ans, j'ai des symptômes à risque aussi, voilà, j'y crois pas. Et puis il y a tous les intérêts économiques derrière, c'est pas des tests complotistes, voilà, c'est qu'on sait très bien que, en plus avec l'histoire du Brexit qui est apparue, bah, entre les intérêts économiques de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des Russes, des Asiatiques, voilà, je pense que les intérêts économiques, comme d'habitude, vont primer sur l'intérêt de la santé, malheureusement, et je pense pas qu'on sera tous vaccinés à la date qu'ils nous le disent.
Voilà, merci Stéphane de ce témoignage, même si ça nous réjouit pas beaucoup. Pour revenir sur cette société nantaise, il se trouve que Agnès Pannier-Runacher était ce matin l'invitée de Yves Calvi. On va l'écouter et après nous repartons au Maroc avec Nicolas.
Alors déjà, Valneva, c'est une entreprise qui a un site dont le seul site de production pour les vaccins était déjà en Angleterre. Je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il était en Écosse. Nous, nous avons ouvert les bras à Valneva en leur proposant un certain nombre de financements. Ils ont considéré que ces financements n'étaient pas suffisants, qu'ils ne représentaient pas 100% du risque, comme cela leur était proposé au Royaume-Uni. Valneva n'a pas souhaité donner suite aux propositions du gouvernement français et on a travaillé en bonne intelligence et sans aucune agressivité, mais ils ont préféré suivre une autre piste.
Bon, c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce que dit Christelle Morancé, qui est présidente de la région Pays de la Loire. C'est ce qu'elle ne dit pas, en tout cas sur son site. Je répète ce qu'elle dit et ce qu'elle écrit, c'est-à-dire qu'elle a contacté le ministère et que personne ne lui a répondu et ça a été sans suite. Donc ce sont deux avis différents. Nicolas, qui habite donc au Maroc, juste un petit mot pour nous dire comment la situation est vécue au Maroc ?
Alors, toujours de moins en moins de cas, en sachant qu'il n'y a quasiment pas de tests de fait, quasiment plus de tests, parce qu'ils sont très chers, ça représente un tiers de SMIC, donc de faire un test, il faut le payer.
Donc on ne sait pas, en fait, si on ne fait pas de tests, on ne sait pas s'il y a des cas, comme ça c'est...
Voilà, exactement, c'est plus pratique.
C'est plus pratique peut-être, mais bon, les restaurants sont ouverts ?
Les restaurants sont ouverts, les cafés sont ouverts. On vit quasiment normalement, sauf qu'il n'y a pas de touristes, et là ça c'est le drame.
Et le nombre de morts quotidiens vous est donné comme il l'est donné en France ?
Il est donné un nombre, là on a à peu près 30 morts par jour, en sachant que les gens qui ont des comorbidités sont considérés comme morts de leur comorbidité.
Ah oui, donc c'est une gestion largement différente de celle qui est faite en France. Mais voilà. Vous sentez que la population au Maroc est particulièrement angoissée ou au contraire qu'elle vit plus légèrement ?
Franchement, il y a de tout. Mais il y a beaucoup d'insouciance, effectivement. Hein, parce que le masque, qui est toujours obligatoire, n'est quasiment plus porté.
Le masque est obligatoire ?
Ouais, mais depuis toujours. Depuis le mois de mars. Hein. Bon. Et pour ce qui est des vaccins, ils ont commencé à vacciner avec AstraZeneca et Sinopharm. Mais bon, petit à petit, quoi.
Bon, merci beaucoup Nicolas de ce témoignage rapide, certes, sur le Maroc, mais c'est intéressant de vous écouter. 13h28, à tout de suite. Je le répète, je souhaiterais qu'on puisse évoquer le sujet Richard Berry, même si c'est délicat d'en parler, puisque par définition, on n'a pas accès ni au dossier, ni à ce qui s'est passé. Mais il me semble que c'est un sujet qui est dans l'air du temps, bien sûr, et qui pose aussi le problème de la médiatisation lorsqu'on est une personne publique. Donc je voulais vraiment avoir votre avis sur ce sujet. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud
et Laurent Tessier.
Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, ce n'est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d'éviter à court terme un reconfinement ou non, c'est bien autre chose.
Collectivement, être extraordinairement responsable, comme nos concitoyens le sont depuis plusieurs semaines et je les en remercie très profondément.
L'est-on déjà suffisamment ? Oui, le français est respectueux, écrit Patricia sur nos réseaux sociaux. Vous trouvez que le port du masque est bien respecté, vous craignez que les fêtes sauvages se multiplient, mes voisins font la fiesta tous les week-end, dénonce Daniel, c'est insupportable, ils ne comprennent rien, ça me désespère. Vos avis, dès maintenant au 32-10. Elle est surnommée l'affaire du siècle, l'État est responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la conclusion de la justice administrative. Elle avait été saisie par des ONG, soutenue par une pétition de plus de 2 millions de citoyens. Plusieurs personnalités artistes ont applaudi la décision sur le compte Twitter de l'affaire du siècle.
L'action climatique de l'État est jugée illégale.
Vous vous en félicitez. Trouvez-vous que l'État est inactif sur les questions climatiques? Eh bien, l'État, c'est vous, c'est nous, réagit Grégory sur la page Facebook. Si on veut moins polluer, il faut changer nos habitudes. Mais le voulons-nous réellement? Pour moi, écrit Benoît, il y a des choses bien plus urgentes en ce moment. L'écologie n'est vraiment pas ma préoccupation. Partagez-vous ces avis, 32-10. L'acteur Richard Berry a fermement démenti sur les réseaux sociaux les accusations d'inceste. Elles sont portées par une de ses filles. Je dément de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, sa fille de 45 ans, ni avec aucun de mes enfants, a assuré l'acteur dans un long texte qui a été publié sur son compte Instagram.
Je rappelle qu'Emmanuel Macron a assuré hier que tous les Français adultes pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été, juste après avoir réuni les grands labos français et européens pour leur demander d'accélérer la production de doses. Le chef de l'État a donné de l'Élysée une interview surprise, et c'est vrai qu'en ce moment, on est sur un domaine de surprise de la communication. On se souvient de ce qui s'est passé vendredi. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé que 4 sites français vont produire des vaccins anti-Covid dès fin février. Il a estimé que début mars auront été vaccinés les 80% des pensionnaires des EHPAD qui l'auront souhaité, soit 500 000 personnes, ainsi que largement les plus de 75 ans. Il a enfin reconnu que le rythme de vaccination peut paraître trop lent par rapport à d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. On est avec Elisabeth. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors est-ce que vous y croyez?
Bah non, franchement moi j'y crois pas ça. J'ai l'impression que notre président croit vraiment au monde des bisounours. Mmh. Parce que la vaccination, elle dépend de tellement de facteurs. Déjà, bon ben, ça dépend des livraisons. Enfin, on a tellement de problèmes aussi pour la logistique, l'acheminement des vaccins, l'organisation et tout. On finit vraiment par douter.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai pas eu un auditeur qui y croyait. C'est ça qui est depuis 13h, là, il est 13h33. On a eu 4 ou 5 auditeurs. Personne ne croit que ce soit possible. C'est drôle.
À force d'avoir sans arrêt des mauvaises nouvelles, ça devient dur de garder un petit peu d'espoir.
Il y avait un conseil de défense, d'ailleurs, ce matin. Je vous coupe parce que je vois que Gabriel Attal est en train de faire le point sur ce conseil de défense. Ses premiers mots, c'est la situation reste fragile. Donc, évidemment, on va écouter ce que dit Gabriel Attal. Et s'il a dit des choses alarmantes, nous vous en ferons part, Elisabeth.
D'accord.
Donc le vaccin.
Puis ça met en plus bien en avant le déclin de la France. On devient vraiment un pays, on devient un maillon faible aussi de l'Europe. On va être au même niveau que l'Italie, l'Espagne, la Grèce.
Tout ça n'est pas très réjouissant, mais là aussi, c'est la tonalité depuis 13 heures. Donc, vraiment, moi, j'essaye d'être un peu positif depuis 48 heures, mais là, vous me coupez le moral.
En fin de compte, ça reflète bien l'état du moral des Français actuellement. Ça court pas tellement les rues, les Français qui ont le moral, hein, franchement. Même si on essaie toujours de positiver un petit peu, ils en mettent toujours une couche. Donc ça fait
Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a quand même... Moi, j'ai le sentiment que l'atmosphère a un peu changé. D'abord, Emmanuel Macron n'a pas cédé à l'injonction des Cassandres. Ensuite, le vaccin est là. Et puis, nous sommes au mois de février, donc c'est bientôt la fin de l'hiver. Et a priori, ça se passe mieux avec ce virus lorsqu'il fait beau. Donc voilà, on peut imaginer avoir des raisons de sortir de la crise.
Moi, je disais ce matin dans le journal, comme on habite en Moselle, je vois que Metz fait partie des villes les plus impactées actuellement, au même niveau que Nice. Donc je me dis, à mon avis, c'est mal barré pour nous, quoi, dans Moselle.
Bon, écoutez, je ne vous aurais pas convaincu.
Mais, non, pas du tout.
C'est pas grave, Elisabeth, hein, c'est les auditeurs ont la parole, hein, c'est pas moi.
Exactement.
Bon, vous êtes maman au foyer?
Oui, c'est ça.
Bon, quel âge ont les enfants?
Bon, ils sont grands, hein. Il y a que la petite dernière qui a 16 ans.
Bah, ça va, 16 ans, il y a une forme d'indépendance déjà.
Exactement.
Elle vit un peu sa vie. Est-ce qu'elle sort à 16 ans?
Eh ben non, elle est très respectueuse. Elle revient du lycée, il est 16h passé.
Elle ne demande pas à sortir le week-end déjà?
Non. Ou alors si elle sort toute seule, elle va faire des balades en forêt, elle adore ça.
Ah oui, il faut faire attention quand même. Est-ce qu'elle a un petit copain à 16 ans?
Oui.
Ah, vous le connaissez?
Oui.
Et vous en pensez quoi?
Vous êtes bien indiscret.
Ah oui, je suis complètement... Mais ça me passionne en fait, la vie des gens.
Bah, c'est sa vie. Et bon, bah... s'il lui plaît, il est super sympa et tout. Donc nous, du moment que pour l'instant il fait son bonheur, il n'y a que ça qui compte.
Bon, et elle travaille bien?
Impeccable. Franchement, là, depuis qu'elle est scolarisée, on n'a jamais eu de problème. On espère que ça dure.
Vous êtes là, bah, c'est parce qu'elle a été bien élevée. Vous l'avez entouré, vous l'avez accompagné, hein, les enfants souvent.
Exactement. On est... Ah oui, c'est ça. Moi, je dis toujours... Bon, j'ai la chance d'avoir fait le choix de pouvoir être maman au foyer, mais c'était pas pour rien.
Bon, ben, vous êtes content, vous êtes fier.
Bah oui, je suis fier. Le jour où elle pourra faire le métier qu'elle veut, là, je serai encore plus fier.
Elle veut faire quoi?
Pilote de chasse.
Ah non, mais ça, c'est étonnant. Et pourquoi elle veut être, à votre avis, pilote de chasse?
Mais elle aime bien le milieu militaire. Mère, elle nous a dit, c'est si je peux pas être pilote de chasse, ça sera soit gendarme, soit je serai dans l'armée de terre. Donc, on sait déjà qu'elle va être militaire.
Et votre mari, il est militaire?
Non, pas du tout, mais je veux dire, ma famille, ouais, c'est plutôt dans le monde militaire. Donc, c'est pour ça, je pense.
Bon, bah, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup.
De rien.
Là, c'était un plaisir. Et puis, une petite page de publicité.
Vous êtes sûr que ça va?
Pourquoi?
Parce qu'en général, vous êtes un peu ronchon et aujourd'hui, vous voyez le verre à moitié plein, vous souriez.
Je vous l'ai dit, il y a des arguments. J'ai aimé qu'Emmanuel Macron prenne une décision qui n'était pas dictée par les Cassandres. Voilà, qu'il responsabilise les gens, que nous ne soyons pas infantilisés. On a dit à ce micro en permanence qu'on n'était pas des enfants et de ça. Quand un président qui dit c'est à vous les gestes de barrière, c'est à vous de faire attention, c'est à vous de faire ceci, cela, bah écoutez, j'écoute, moi, je suis pas buté.
Ah non, mais c'est très agréable de vous voir pas ronchon.
Oh, mais vous êtes une... Elisabeth, je suis ronchon.
Non, mais alors je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est l'extase pour vous, parce que
c'est pas
vraiment la même chose.
C'est parce que vous êtes là. Alors j'ai pas fini d'écouter Gabriel Attal, il est en train de parler, c'est le porte-parole du gouvernement. S'il nous annonce un truc horrible,
ça va changer tout de suite.
Le confinement n'est pas une fatalité, a-t-il dit. Ah, ça c'est bien, ça. Ah bah tiens, je suis encore plus heureux.
Ah bah le monde merveilleux.
Le confinement n'est pas une fatalité. La 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 la. Et me dit mon amour, les mots tous les jours. Bon, Elisabeth, je vous embrasse.
Ça vous apprendra.
Merci, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'acteur Richard Berry a fermement démenti hier sur les réseaux sociaux les accusations d'inceste portées contre lui par une de ses filles qui a porté plainte auprès du procureur de Paris dans le sillage de l'affaire Duhamel. Je dément de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, ni avec aucun de mes enfants. Et il a poursuivi, alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Colline elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été abusée. C'était il y a 7 ans. Son récit a évolué avec le temps, a-t-il également écrit. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs ou de l'actualité. Pendant des années, j'ai tenté de lui parler sans succès. Je m'en suis ouvert à des psychiatres, à ma famille, à mes amis. Et il conclut en disant lors du témoignage de Camille Kouchner, sa fille a d'abord contacté des journalistes au début du mois de janvier, puis elle a déposé une plainte. Immédiatement, j'ai écrit au procureur de Paris pour lui demander, malgré la prescription, qu'une enquête approfondie soit diligentée pour établir la vérité. Nous sommes avec Marc qui est en Lozère. Bonjour Marc.
Bonjour Pascal Pro, et puis bon déjà, je vous remercie pour vos émissions fantastiques, que ce soit sur RTL, puisque je suis chauffeur, donc je roule et j'écoute RTL, mais je regarde aussi CNews, je vous trouve extra, voilà.
Vous êtes gentil, merci beaucoup Marc. Comment ça vous fait...
Moi, je suis pas d'accord avec vous quand même, hein.
Alors ça, vous êtes extraordinaire, parce que j'ai pas d'avis, donc vous êtes d'accord, qu'est-ce que j'ai dit
sur les... sur, par exemple, sur une journée, une matinée, les questions qu'on apporte, moi, je, des fois, par exemple, sur le Covid.
Ah oui, apporté... pardon, je pensais que c'était sur Richard Béry. Ah bah oui, bon, que non, vous ne soyez pas d'accord avec moi, bien sûr.
Non, tu me mets l'excuse. Alors, moi, je dis, en fait, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, c'est un désastre familial.
Ben, nous sommes d'accord.
Et moi, pour Richard Berry, moi, je l'ai vu à Paris en 78, voire, c'était en gare, il faisait ses piments. C'est un référent. Mmh. C'était quelqu'un moralement qu'on pouvait croire de suite.
Mais il faut croire, la présomption d'innocence. Il faut pour d'innocence, c'est ça.
Certes, mais le désastre familial qui existe entre la fille et le père. Si je porte la chose à ma propre personne, si je vois ma fille faire ça, pour moi, c'est j'ai mal fait ma vie, j'ai mal fait ma vie familiale. C'est pas possible. Une femme de 45 ans qui dépose plainte contre son père, qui est Richard Berry, pour inceste, c'est un désastre. Alors après, c'est tellement fort ce que fait cette jeune femme. C'est tellement fort que la présomption d'innocence, elle est un peu bafouée. Mais on va prendre du recul, on va dire c'est peut-être pas vrai. Mais le fond du problème, c'est un désastre familial. Et c'est ça qui est grave. Sur des gens qu'on croit être des références sur quand ils parlent de la famille, quand ils parlent du social, des problèmes sociaux. Je l'ai vu Richard Berry parler de la misère, parler de... Bah. Et tout d'un coup, soudainement, on me dit que sa famille, il a pas su faire... C'est un échec familial pour moi.
Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait se défendre de tout jugement, pour tout vous dire. Et malgré nous, on porte quand même sur la situation... un regard. Faut rappeler que Richard Berry, d'ailleurs, avait donné un rein à sa sœur. Hein. C'est important aussi de le dire dans sa personnalité. Et il se trouve que j'ai eu Alexandre Arcadie et Gérard Darmon au téléphone, qui sont deux de ses amis, qui effectivement ne croient pas une seconde à cela. Gérard Darmon dit, je le connais depuis 45 ans, et lui-même, en disant les choses, d'ailleurs, il me dit, je sais bien que ces phrases-là, parfois, les uns et les autres ne les entendront pas, mais ce n'est pas possible. Richard Berry, que je connais, ce n'est pas possible. Voilà.
J'ai écouté l'interview, effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut parfois être surpris. Maintenant, je dis, je vais avoir du recul, hein, bien sûr, parce que moi, j'ai ma vie, bien sûr, chaque individu a sa vie, on y pense. Mais quand je pense, si je prends les deux choses en même temps, je dis, c'est un désastre familial. Et ça, ils n'en parlent pas, Arcadie, et c'est un désastre familial.
Ben merci Marc de ce premier témoignage. Il y a Anne également, il y a Nathalie qui sont là. Donc ça va être intéressant d'écouter les auditeurs. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le confinement n'est pas une fatalité, c'est la phrase qui ressort de l'intervention de Gabriel Attal. Elle est importante, cette phrase, parce qu'on est mercredi. Elle vient donc quasiment une semaine après les annonces de Jean Castex. Ça veut dire que pour le moment, au sommet de l'État, on ne remet pas en cause cette idée de non-confinement qui est donc le choix qu'a pris Jean Castex et Emmanuel Macron.
Laurent. Autre sujet, Pascal. Sachez-le, les salariés pourront prochainement... Oui, déjeuner à leur bureau pour limiter les possibilités de contamination.
Mais c'était vrai déjà, là, vous avez vu des gens déjeuner parfois, c'était pas légal alors ?
Alors, un décret va être publié dans les prochains jours, et vous avez raison, le Code du Travail interdit actuellement aux entreprises de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les bureaux affectés au travail.
Depuis le mois de mars, j'ai dû croiser pas mal de gens... dans l'illégalité dans les entreprises françaises.
Et je pense que vous serez nombreux à nous le dire au 3210. Qu'en pensez-vous ? C'est du bon sens. Eh bien, appelez-nous dès maintenant.
Évidemment. On est sur le sujet Berry avec Anne, qui est médecin. Bonjour Anne, qui habite la Savoie.
Oui, bonjour. Merci de me prendre. Alors, concernant, oui, donc, Richard Berry, j'ai été très étonnée. Parce que je dirais que cette accusation, pour moi, ne colle pas avec l'idée que je me faisais du comédien. c'est très difficile de rester neutre, enfin de dire bon, c'est à la justice de faire son travail et elle aura sûrement du mal parce que ça sera parole contre parole et ça sera sûrement compliqué de trancher. Merci des précisions que vous avez apportées là tout récemment, que j'ai écouté avec attention par rapport à la réaction du comédien suite aux accusations de sa fille. Manifestement, il se démène. Manifestement, il a essayé de chercher le dialogue avec elle et c'est plutôt elle qui s'est dérobée. Bon, voilà. Moi, je me dis... alors, il se trouve que j'ai pris ma place pour le spectacle de Richard Berry, ce qui devait déjà se produire l'an dernier dans ma région, là, en Savoie, pour son spectacle Plaidoirie, qui est reconduit cette année. Alors, j'espère que le Covid ne va pas empêcher ce spectacle. Dans ce spectacle, il incarne une certaine idée de la justice, il faut dire ce qui est, et entre autres, il défend deux femmes. Il y a le procès Bobigny, Gisèle Halimi, au sujet d'une femme qui s'était fait avorter, et puis il y a l'affaire Courgeot. Bon, je me dis, est-ce qu'il peut incarner la défense de ces femmes en ayant un tel poids sur la conscience? J'avoue que je me pose la question. J'ai hésité deux secondes à me dire est-ce que je maintiens ma décision d'aller à ce spectacle ou pas, là, en apprenant la nouvelle, mais je vais la maintenir quoi qu'il arrive. Et je serais intéressée de voir la prestation de toute façon de Richard Berry. Ce qui est dramatique, c'est que s'il s'avère que les allégations sont fausses, il restera toujours un doute sur l'intégrité de ce comédien. Et bon, même s'il a fait, je pense, le plus gros de sa carrière déjà, mais bon, il n'est pas, comme comédien.
Non, mais c'est infamant. C'est infamant comme attaque.
C'est dramatique.
Ça projette d'abord sa vie privée sur le devant de la scène. Ça montre effectivement les difficultés d'une famille. Donc c'est terrible. Comment se défendre d'ailleurs? Je ne sais pas comment on peut se défendre. Lui, il a choisi, pour tout vous dire, une solution que je trouve plutôt bonne, qui avait été utilisée par Nicolas Hulot, c'est de prendre les devants.
Tout à fait. Et
de dire les choses, quoi, de dire les choses. Voilà, de prendre les devants et d'aller vers, en l'occurrence, la justice. Donc c'est la solution qu'il a choisie. Bon. Est-ce que, comme vous le dites, pour certaines personnes, il en restera des traces, quoi. Vous savez, c'est la phrase « mentez, il en restera toujours quelque chose ». Je ne sais plus si c'est une phrase de Voltaire ou qu'on cite souvent d'ailleurs. « Mentez, il en restera toujours quelque chose ». Donc voilà Anne, ce qu'on pouvait dire. Nathalie est là également, qui nous écoute. Bonjour Nathalie, qui habite en Loire-Atlantique.
Oui, bonjour.
Quel est votre sentiment?
Quand j'ai entendu ça, parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, et j'ai été étonnée. Je pense que ça a été ma première réaction, parce que vraiment, je m'attendais peut-être à d'autres personnes, mais pas à lui.
Mais à qui? Parce qu'on peut attendre ça de personne.
Je suis d'accord avec vous là-dessus.
C'est Voltaire qui avait dit « Mentez, mes amis, il en restera toujours quelque chose ».
Non, je ne veux surtout pas dire que c'est inadmissible, ce genre de propos, enfin de choses. Et ça ne se fait pas, que ce soit ça ne se fait pas, c'est pas possible. Mais moi je trouve que c'est dommage que c'est encore mis au jour devant tout le monde. Je pense que ça serait mieux si ça pouvait rester dans la famille, justement, entre la justice et la famille.
Mais c'est pas le but dans ces cas-là de celle, en l'occurrence, de sa fille. On sait bien que la justice, elle est éteinte. Puisqu'il y a prescription. Donc le but, manifestement, de cette jeune femme, d'ailleurs qui a 45 ans aujourd'hui, c'est précisément que ce soit public. C'est une manière d'atteindre forcément son père. Pourquoi veut-elle le faire? Il y a qu'elle qui connaît la réponse à cette question.
Tout à fait. Peut-être qu'elle lui en veut pour autre chose. Peut-être que c'est vrai, que c'est avéré, que c'est inadmissible. Et si c'est pas vrai, moi je plains beaucoup Richard Berry. Parce
qu'alors
parce que les gens de toute façon s'en souviendront. Même si on lui dit qu'il est innocent, qu'il a rien fait, je sais très bien que plus tard les gens s'en souviendront et ça va rester dans les mémoires de toute façon. Et ça, c'est quelque chose, c'est une trace indélébile qu'on ne peut pas enlever.
Si c'est vrai, c'est abominable, et si ce n'est pas vrai, c'est abominable. Donc, voilà. C'est ce que nous disions tout à l'heure,
et c'est ça, quoi. Je trouve ça malheureux. Et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que j'ai cru entendre, que sa fille avait donné naissance il n'y a pas longtemps, c'est ça?
C'est-à-dire que il y a 7 ans, Richard Berry annonce à sa fille que sa femme est enceinte. Il se trouve qu'il a 63 ans à ce moment-là. Il se trouve que sa fille, au même moment, attend un enfant. Et c'est en tout cas la version de Richard Berry. Alors que j'annonçais à ma famille que ma femme et moi attendions un enfant, Colline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême. Puis dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu'elle aurait été abusée.
Alors moi je sais que par mes 2 grossesses, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu. À chacune de mes 2 grossesses, il y a toujours une chose qui m'est revenue en mémoire d'un fait. Quand j'étais plus jeune, rien de ce genre-là, mais quelque chose qui était enfoui, pour moi c'était anodin, mais peut-être que pour elle ça l'était pas pendant sa dernière grossesse et qu'elle a il y a une chose qui est enfouie au fond d'elle-même et c'est revenu en mémoire pendant sa grossesse ou au moment de l'accouchement.
Merci Nathalie. Jean-Pierre est là également, qui habite Lyon. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour à vous.
Bonjour, fidèle écouteur à vos émissions.
Merci d'être fidèle.
Voilà, donc je viens échanger sur le cas de Richard Berry. Alors, ma position, c'est que j'ai eu un cas similaire personnellement. Alors, évidemment, on ne connaît pas ce que a fait Richard Berry, on ne le sait pas. Par contre, le gros souci que je dénonce, c'est que le problème, je crois, c'est la justice. Étant donné que il est facile pour une femme d'attaquer pour inceste, par contre vous, il vous est très difficile, on va dire, de.
On peut pas dire d'ailleurs que ce soit facile pour une femme d'attaquer pour inceste. Vous voyez, c'est une phrase qui mériterait de la nuance. C'est jamais facile. La preuve d'ailleurs, c'est que très souvent, quand une femme a été abusée, victime d'inceste, elle met des années avant de pouvoir précisément dire les choses. Donc je réfute ce que vous dites.
Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt aussi une monnaie d'échange? Vous savez, dans les familles, on ne sait pas ce qui s'y passe, et vous avez toujours un mobile, c'est-à-dire une sorte de, je dirais, de stratégie. Alors les choses, elles ont pu se faire, et ça, quelque part, c'est à dénoncer, c'est à juger, mais aussi, il faut savoir que quand vous êtes homme, que vous avez, il est très difficile au niveau de la justice de prouver votre innocence. Donc là, effectivement, on entend parler du cas de Richard Berry parce que c'est quelqu'un qui est connu, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui vivent la même chose et ils sont nettement moins médiatisés.
Et dans les deux cas, c'est difficile de toute façon de prouver. Mais ce que vous voulez dire, c'est que à partir du moment où une accusation aussi grave est dite, même si celui qui l'a dit n'arrive pas à la prouver, le mal est fait et c'est à ce point infamant qu'il restera, qu'il arrive, sur une personne connue ou pas, il y aura des conséquences.
C'est une destruction familiale où vous avez toute une famille qui est détruite. Ça, c'est clair, c'est détruit. Vrai ou faux, c'est détruit. J'étais d'accord
avec
le premier auditeur.
C'est vrai que c'est... Bien sûr, je comprends, bien sûr. C'est difficile, bien sûr.
Après, il y a l'aspect juridique des choses, et je crois que là, le problème, il est là. C'est que je pense que ça serait à la personne qui a été victime de prouver...
Mais c'est impossible, c'est impossible. 40 ans plus tard, et on le voit bien avec Camille Kouchner, son frère, comment voulez-vous que son frère puisse prouver que ce qui s'est passé, c'est réellement passé?
Quand vous êtes au tribunal, quand vous n'avez rien fait, il est très très difficile de prouver que vous n'avez pas fait.
Bien sûr.
Et c'est là le problème.
Bien sûr.
Le problème... C'est prouvé à une...
Mais quand ça a été fait, mais vous avez raison, et ces arguments s'entendent. Et en même temps, quand ça a été fait pour celui qui en a été la victime, c'est terrible.
Et le mot est en dessous de la vérité. Je remercie vraiment Jean-Pierre. Ça a été un sujet vraiment intéressant. Je pense qu'on devait le faire. Il est 13h58. Olivier Bois dans une seconde.
Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va parler d'environnement avec Jérôme. Bonjour Jérôme, l'État responsable.
Bonjour Pascal. Pas tout à fait, je pense qu'il faudra en sortir de ces accords du climat.
Olivier Bois.
Le confinement d'abord n'est pas une fatalité. Le gouvernement reste sur la même ligne. C'est Gabriel Attal qui le dit ce midi, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil de défense de ce mercredi matin. Ajoutant que le nombre de cas positifs restait stable, mais signale toujours inquiétant le nombre d'hospitalisations et le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter. La priorité affichée, c'est la vaccination. On va y revenir, Pascal. Emmanuel Macron promet donc que tous les Français pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été. 1,5 million en tout cas de Français le seront d'ici la fin février. Des laboratoires français vont également être sous-traités à partir de mars pour fabriquer les vaccins Moderna et Pfizer. En Italie, c'est confirmé, c'est Mario Draghi qui est chargé de former un nouveau gouvernement pour sortir l'Italie de la crise économique et politique qu'elle traverse. Mario Draghi qui a été notamment 8 ans à la tête de la Banque Centrale Européenne. La météo demain, c'est de la grisaille sur l'Île-de-France, sur la Normandie, sur la Marne, autour de la Méditerranée également. Il y aura un peu de pluie dans le sud-ouest et des éclairs dans l'ouest et dans l'est du pays. Les températures resteront douces demain matin, de 5 à 12 degrés. Et les courses à Cagnes-sur-Mer, à l'instant l'arrivée provisoire, le 11, le 2, le 3, le 10 et le 5.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On va évidemment parler de ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. L'État est responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la conclusion de la justice administrative. Mais nous terminons sur l'affaire Berry, si j'ose dire, avec quelque chose qui vient d'arriver à l'instant. Puisque sur Instagram, qui est un réseau social, Colin Berry Rochman a posté un message avec ses stories, comme on dit. J'essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps à Télécrit avec constance et discernement. Mon dépôt de plainte, acte grave, réfléchi et pondéré, est désormais réduit par mon père à un récit qui aurait évolué depuis la grossesse de sa femme actuelle. Et d'ajouter, ma narration des faits n'a jamais varié, nombre de témoignages peuvent être fournis au soutien de cette assertion, notamment au sein de ma propre famille. Ce qui a évolué au fil du temps, c'est son attitude. De la violence première, il est ensuite passé à la sollicitation moite pour que je passe l'éponge ou ne le fasse pas passer pour un pédocriminel. Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici. Ce déni flagrant, cette toute puissance, cette violence émanant de lui et de son entourage sont lourds à porter. Avant de conclure, c'est cet enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale notoire, c'est elle qui a déposé plainte. Voilà ce qu'écrit Colin Berry Rochman. Revenons donc, ou même arrivons plus exactement à ce sujet, l'affaire du siècle. Et nous étions avec Jérôme que j'interrogeais. L'État est responsable. C'est la climatisation qui me fait éternuer. Jérôme, votre sentiment?
Écoutez, bonjour Pascal. Je suis très content de vous avoir, parce que j'aime beaucoup comment vous faites en fait les choses. Alors, moi je suis assez attristé, mais je suis pas surpris par la condamnation de la France, parce que je pense que les accords climat qui ont été signés, pour moi, ont des objectifs qui sont très très irréalistes. Et donc du coup, on est parti dans un engrenage infernal où on réussira jamais à atteindre en fait ces objectifs avec des condamnations successives. Pour moi, l'accord il a été signé, je pense, par des politiques pour des raisons électorales un peu écologiques et moralisateurs, mais sans tenir compte en fait des réalités en fait du terrain. Donc je suis pour en sortir et re-signer en fait des accords qui sont plus raisonnables, plus échelonnés, et que tout le monde pourra réussir en fait dans le monde entier, parce que je pense que les plus gros pollueurs, la Chine, l'Inde, voilà, le Brésil, ils suivront pas en fait ce rythme d'évolution, de réduction de la pollution, quoi. Parce qu'on pèse que 0,9%.
Je suis d'accord, mais l'État est responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que conclut la justice administrative française. Oui. Les gens saisissent mal d'ailleurs, hein, parfois. Comment la France peut-elle condamner la France? C'est ça, parfois, que les auditeurs comprennent là-dedans. Et cette justice avait été saisie par des ONG soutenues par une pétition de plus de 2,5 millions de citoyens. Et c'est le tribunal administratif qui a reconnu l'existence d'un préjudice écologique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'après le... On va dire, en fait, l'objectif est tout à fait louable. Personne ne peut être pour la pollution. Après, l'État a signé un accord qui est beaucoup trop ambitieux et on a une part de population qui souhaitait que ça soit appliqué, mais en fin de compte, l'appliquer, c'est ce qui va coûter très cher aux Français en termes de taxes, en termes de d'automobiles électriques, de quotas des eaux qui a pas été appliqué d'ailleurs, mais plein de choses qui vont énormément pénaliser les Français, alors que beaucoup de pays étrangers ne le font pas. Moi, je voyage en fait beaucoup et on voit qu'aujourd'hui, quand on est au Brésil, aux États-Unis ou en Chine, je veux dire, la pollution, c'est pas la priorité des populations en fait locales. C'est d'acheter une voiture, c'est de consommer. Mmh. Et donc, nous, on va subir de plein fouet pour les 20 prochaines années des contraintes énormes et qui finiront pas par sauver le climat. Moi, j'y crois pas, en fait, une seule seconde.
Jean-Michel est là également sur ce thème. Bonjour Jean-Michel, qui est agriculteur et qui peut-être ne comprend pas la décision du tribunal. Bonjour.
Pascal, oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal, le prénom de la personne avec laquelle
Jérôme.
Vous parliez?
Jérôme.
Bon, si vous lisez exactement les attendus du jugement, moi je les ai sous les yeux. La rapporteure publique avait invité les juges à constater, j'ouvre les guillemets, la carence de l'État pour lutter contre le réchauffement climatique, car il ne respecte pas la trajectoire qu'il a fixé. Ce n'est pas un jugement sur le fait que l'État ne respecte pas des règlements internationaux, notamment la COP21 ou je sais pas quelle autre COP. C'est sur le fait que, et c'est écrit, que l'État ne respecte pas la trajectoire que l'État lui-même a fixée. C'est pas la même chose. Jérôme parlait de choses plus d'accords plus internationaux. Le jugement de l'État ne fait pas référence à des accords internationaux. Le jugement de l'État prouve que l'État est incohérent, puisqu'il se fixe une trajectoire et qu'il ne l'atteint pas. La question est de savoir si l'État est compétent pour fixer ce genre de trajectoire. Mmh. Alors, quand même. L'État, alors après, se pose la question du rôle des élus, parce que ce sont les élus, c'est le Parlement qui vote ces directives internes.
Je suis d'accord, Jean-Michel, mais ce qui m'intéresse, c'est la décision du tribunal administratif. Vous la comprenez, vous la comprenez pas, vous trouvez que c'est dommage?
Non, mais elle est incohérente.
Bah, pourquoi?
Elle est incohérente parce que, d'abord, elle est incompréhensible parce que elle ne fait pas référence à des accords internationaux. Mmh. Si vous lisez tout, vous comprenez que l'État a été condamné parce que l'État lui-même n'est pas capable d'assumer ce qu'il prône. Donc, ce que j'espère, moi, c'est que ce qui est écrit plus tard, que par exemple que les requérants seront fondés à demander la réparation en nature du préjudice écologique, que ce préjudice donc sera à indemniser sur la base de ce que l'État possède, je sais pas moi, les forêts domaniales, le littoral, mais que l'État ne fera pas reposer sa faute sur les citoyens, entre parenthèses, les agriculteurs.
Bon, c'est un peu complexe tout ça, mais on a compris l'essentiel du message. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je vous rappelle que l'État est responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la conclusion de la justice administrative qui avait été saisie par des ONG. Nous sommes avec Marc et on essaye de décrypter, d'avoir votre sentiment.
Oui,
sur cette décision. Bonjour Marc, vous habitez Belfort.
Oui.
Quel est votre sentiment?
Moi, je trouve que tout ce qui va dans le sens d'une contrainte pour une amélioration du climat est une bonne chose. Je suis assez frappé, en fait, quand je vois la facilité avec laquelle on instaure des contraintes pour lutter contre un virus, je suis assez frappé qu'on ne fasse absolument rien ou très peu de choses pour essayer d'éradiquer, enfin d'endiguer un fléau qui va s'avérer bien pire qu'un virus dans quelques dizaines d'années.
Et par exemple, quelles sont les mesures que vous jugez indispensables?
Ben, si vous voulez, je ne vais pas vous faire une liste de mesures, mais...
Ah bah si, ça m'intéresse.
Oui, d'accord. Mais à un moment donné, il faut être un peu coercitif avec les gens, sinon vous n'obtenez rien.
Ça m'intéresse doublement, votre avis. Parce que là, je voudrais savoir quelles sont les mesures coercitives que vous imaginez.
Bah, c'est des exemples, hein, c'est anecdotique. Mais par exemple, je pense qu'il faut absolument réduire le transport des gens, enfin cette manie d'aller à l'autre bout du monde pour un oui ou pour un rien, pour s'exposer un peu au soleil sur une plage.
Donc ça m'intéresse beaucoup, Marc. C'est-à-dire que concrètement, vous considérez que moi, si je vais aller, par exemple, passer 15 jours dans un endroit, par exemple, je rêve d'aller à l'autre bout du monde, aux Marquises. J'y suis jamais allé. Jamais.
Oui.
Bon. Et à Tahiti. Je suis jamais allé à Tahiti. Vraiment, je voudrais un jour aller à Tahiti. Uniquement pour mon plaisir. Bon. Donc vous me dites, monsieur Pascal, vous êtes gentil, mais vous n'allez pas à Tahiti.
Je vous dis ça, oui. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être un peu responsable, oui.
D'accord.
Parce que si à vous, Pascal, qui y allez, ça ne me dérange pas.
Attendez, cette émission, c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est ça, moi, j'aime bien. Vous avez forcément raison pour vous. Vous avez le droit de penser ça. Non, mais vous avez le droit de penser ça.
Tout à fait.
Bon, je trouve qu'effectivement. que me dit Greg Caradoni?
Si vous invitez Marc, vous n'y allez quand même pas, Marc?
Ah non, Marc, il n'y va pas. Ah non,
c'est... Ah non, il n'y va pas.
Bon. Donc ça, première chose, donc vous interdisez aux gens de voyager en avion n'importe où. J'ai le droit d'aller, par exemple, en bateau si je veux, avec mon bateau pneumatique, mais pas en avion.
Ouais, vous pouvez aller en cargo. Il y a des choses très bien qui sont dans les cargos maintenant.
D'accord, en cargo. Quelle est l'autre mesure coercitive? Donc, vous empêchez les gens de voyager en avion, pourquoi pas? Autre mesure que vous imaginez?
On peut mettre des restrictions sur l'usage de la voiture, sur des tas de choses, sur le fait de consommer.
Ça m'intéresse encore beaucoup. C'est-à-dire que concrètement, j'ai le droit à un nombre de kilomètres par an avec
vous.
Ce
que vous faites, Pascal, c'est pas très bien en fait. Parce que vous discréditez mon propos en voulant me faire dire.
Je vous demande d'assumer. Vous avez le droit de penser ça.
Non, bien sûr, bien sûr.
Et vous-même, vous rendez compte que vous êtes... Alors ça, vous êtes extraordinaire. Vous avez le droit. Moi, quand je pense quelque chose, je suis jamais discrédité dans ce que je... Quoi, je ne me sens jamais discrédité par ce que je dis.
Si vous faites une liste, évidemment, il y a 50% de vos éditeurs qui vont se sentir touchés et révoltés par ce que je dis.
Je le répète, Marc, vous avez le droit.
Oui, oui.
Il faut que vous alliez au bout de votre démarche. Donc, par exemple, sur la voiture, vous considérez qu'on doit tous avoir un quota de kilomètres par an.
Oui, bah après, ça dépend. Par exemple, il y a des gens qui font, par exemple, du sport mécanique pour
dans leur loisir.
Dans leur loisir. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Moi, je me pose la question.
Mais là encore, je le répète, vous avez le droit. Donc, par exemple, la Formule 1, vous l'interdisez.
Bah, la Formule 1. La Formule 1. Et puis,
c'est logique, c'est cohérent d'ailleurs.
Il y avait un pilote, hein, mais quand vous voyez des circuits qui sont remplis de week-end de gens qui viennent avec leur Mercedes, leur Porsche pour faire deux tours de circuit, je ne sais pas vraiment si c'est indispensable. Il faut quand même comprendre que ça va très mal se passer dans quelques dizaines d'années à ce rythme-là. Mmh. Donc il faut quand même prendre des mesures.
D'accord. Et je peux savoir dans quel métier vous exercez votre activité, Marc?
Moi, je suis enseignant libéral, en fait. Je suis en marge de l'éducation nationale. Je donne des cours particuliers, en fait.
Non, mais je cherche pas du tout...
Pascal, si on vous avait dit il y a un an, qu'on allait fermer les théâtres, qu'on allait fermer, qu'on allait tout fermer, les restaurants...
Mais moi, je suis contre.
Que vous chérissez, mais vous êtes d'accord, mais quelque part vous l'acceptez aussi. Enfin, vous êtes.
Ah bah,
vous êtes
oui, je vais pas. Mais de toute façon, je peux aller au théâtre, mais il n'y en a pas.
Si on avait dit aux gens il y a un an qu'ils allaient accepter ce qu'ils sont en train de vivre, personne n'y aurait cru.
Mais Marc, je veux vous dire, c'est des philosophies qui s'affrontent entre vous et moi. Moi, je crois au génie humain. Je pense qu'effectivement, l'homme trouvera, comme toujours, la parade à ce que vous appelez une catastrophe écologique climatique, mais et à laquelle je pense qu'on trouvera une parade. Écoute, et vous pensez qu'il n'y aura pas de parade, donc vous avez une autre solution.
Oui, mais vous pouvez trouver des parades pour dépolluer, pour éventuellement diminuer les effets, mais quand vous avez une surconsommation, on vit dans un monde fini, Pascal, vous pouvez croire en ce que vous voulez, il y a une certaine quantité de ressources sur Terre, vous ne pouvez pas avoir une extension infinie dans un monde fini, ça n'importe quel physicien vous le dira, c'est impossible. Donc à un moment donné, la parade, ça va être tout simple, il va y avoir des guerres parce qu'il y a des gens qui n'auront plus accès à certaines ressources et d'autres qui auront accès. C'est la seule finalité.
Je pense pas exactement ça, parce que je pense que les choses peuvent être parfois plus positives. Je pense qu'on a la chance de vivre. C'est ça le paradoxe. Jamais la moyenne d'âge n'a été aussi élevée aujourd'hui. Jamais les gens ont été aussi pauvres. Aussi, pardonnez-moi, jamais les gens n'ont mangé. Oui. La planète permet à chacun aujourd'hui de pouvoir manger, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 100 ans. Jamais des pays qui étaient en voie de développement aujourd'hui ont accès effectivement à une vie 10 fois, 100 fois, 1000 fois meilleure, aux soins, etc. Donc le paradoxe, c'est que jamais les êtres humains n'ont été sans doute aussi bien sur la Terre sur le plan sanitaire, médical, oui. Au moins.
Animal un peu moins quand même, avec 60% de la disparition de la biomasse animale quand même en quelques dizaines d'années.
Mais en tout cas, jamais l'homme n'a peut-être été aussi bien. Et le paradoxe, c'est qu'il y a effectivement ce que j'entends, et donc c'est pour ça que je vous écoute, des gens qui pensent que notre monde arrive à la fin, notre civilisation même arrive en bout de course, Marc. Et manifestement, vous en faites partie.
Oui. À ce rythme-là, pour moi, c'est une certitude.
Merci en tout cas, vraiment merci, parce que c'était très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant quand on peut comme ça dialoguer, vraiment.
Oui, parfaitement, bien sûr.
En toute intelligence, je l'espère en tout cas. Bon, merci beaucoup Marc, qui nous appelait de Belfort, il est 14h18. Finalement, j'irai à Noirmoutier. Je ne verrai jamais Tahiti.
Mais c'est super, Noirmoutier.
Mais c'est vrai que vous êtes allé à Tahiti ?
Jamais.
Et oui, on a tous un rêve comme ça, aller à Tahiti.
C'est votre rêve, Tahiti ?
En voyage.
Ou c'était pour l'exemple ?
Non, je trouve qu'en voyage, est-ce qu'il y a des pays où vous aimeriez aller ou vous n'êtes jamais allé ?
Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'ailleurs.
Alors, lesquels par exemple ?
Je dirais l'Amérique du Sud.
Ah oui, l'Amérique du Sud,
l'Argentine.
Le Brésil, vous n'êtes jamais allé au Brésil ?
Jamais.
Oui, donc ça fait partie, évidemment, on a envie de voyager. 14h18, ça va être le débrief, sauf si on a un dernier. Véronique est là, tiens, pour nous parler peut-être d'environnement. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et puis vous avez peut-être appris aujourd'hui la mort de Jean-Pierre Bastiat, qui était l'un des héros du Grand Chelem 1977. Il était troisième ligne centre victorieux du Grand Chelem de 77. C'est historique, ce Grand Chelem de 77. C'était le tournoi des 5 nations. L'équipe de France avait gagné 4-3 à Twickenham. Et il était la mémoire, lui, de ce Grand Chelem. Jean-Pierre Bastiat, géant des Landes, natif de Pouilly. Et il est décédé à 71 ans des suites d'un accident vasculaire. Véronique, je disais, pour un dernier mot sur l'environnement peut-être ?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Oui, moi je pense que le gouvernement est responsable. Quand vous voyez dans les grandes surfaces, on dit qu'il faut arrêter avec le plastique, tout est emballé dans du plastique. Pourquoi on n'interdit pas ? Pourquoi on met pas des barquettes en carton, en bois léger, moi je fais du tri. Quand je vois dans ma poubelle plastique tout ce que j'ai par semaine, il faut simplement interdire, puisque on sait que ça tue les animaux, les poissons les avalent. À un moment donné, faut être cohérent quand on dit qu'on veut revenir en arrière. Et il y a des choses qu'il faut carrément interdire, c'est tout.
C'est la discussion qu'on avait avec Marc. Qu'est-ce que vous souhaitez interdire ?
Tout ce qui est barquette en plastique partout, tout ce qui est emballage en plastique. Il y a possible. Surtout qu'en plus de ça, souvent vous n'arrivez pas à les retirer, les emballages, ça vous enquiquine, faut prendre les ciseaux. Bon, c'est infernal.
Donc et ça, moi, effectivement, c'est possible. D'ailleurs, par exemple, vous savez que dans les entreprises. Là, je vais le montrer d'ailleurs à l'antenne. J'ai une bouteille d'eau. Eh bien, cette bouteille, l'emballage est en carton. C'est vrai RTL et c'est vrai également dans tout le groupe Canal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui une seule bouteille en plastique qui rentre dans la société. Donc, en fait, les grandes entreprises, elles prennent souvent ce type de mesures parce qu'elles ont un rôle symbolique exemplaire à jouer. Et cette eau-là que je bois est donc dans un emballage en carton. J'en bois un peu d'ailleurs pour tout vous dire.
Les contrôles qui sont faits pour les entreprises pour voir s'ils polluent, il ne faut pas les prévenir avant.
Mais autrement, vous avez d'autres mesures que vous imaginez ?
Oui, le fret, qu'on arrête avec les camions qui polluent, qui font des accidents, qui font des morts et qu'on mette le plus possible sur le rail. La SNCF est en train de se casser la figure. Là, il y a un potentiel de chiffre d'affaires. Alors effectivement, mais pourquoi on le fait pas? Parce qu'on dit, il y a l'entreprise, les camionneurs, ils vont être au chômage. Mais là, on voit bien qu'avec le Covid, on est capable de gérer les gens qui se retrouvent sans argent.
Moi, je pense que c'est difficile de mettre tout sur le rail, parce que...
Pas forcément tout, mais on peut en mettre beaucoup.
Mais oui,
beaucoup de camions qui traversent la France, qui font le plein d'ailleurs,
Mais j'entends bien, mais comment vous faites pour la livraison?
Après, des plus petits qui livrent. Mais vous avez plein de camions qui ne font que traverser. Ils font le plein avant. Ils prennent pas les autoroutes. Ils esquintent notre réseau routier parce qu'ils sont très lourds. Et ils prennent des petites nationales, etc. Ils sont hyper dangereux. Ils font des morts. Ils esquintent nos routes. Ils payent pas un centime parce qu'ils font que traverser. Donc ceux-là, franchement, on les met sur le rail. Ceux qui livrent à un endroit, effectivement, si c'est pas trop loin de là où ils arrivent en France, on leur dit, mais il y a des choses à mettre en place. Mais tout ça, c'est toujours une histoire, comme toujours, partout dans la société, aujourd'hui, c'est l'argent. Voilà.
C'est l'argent, mais je veux bien qu'on... Il a beaucoup de... d'inconvénients dans notre modèle capitaliste, mais je le dis, il a permis quand même à tout le monde de vivre mieux, de vivre plus longtemps.
Moi, je suis pas sûr.
Vous vivez plus longtemps. La moyenne d'âge a dépassé 80 ans.
Plus longtemps. Est-ce que c'est mieux? Vous trouvez que c'est mieux? Avant, les gens vivaient moins, mais ils vivaient dans leur famille. Aujourd'hui,
vous pensez qu'on
les expédie? Les expédie dans les EHPAD.
Véronique, il est 14h24. On continue demain la discussion parce que Laurent Tessier est là et c'est le débrief. Donc, on vous fait des coucous, Véronique. Et on vous remercie. Et on poursuivra cette discussion. Des coucous et des bisous. Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Tous les Français adultes qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron.
Parce que c'est notre projet!
Oui, vous y croyez ou pas? Céline est infirmière, elle nous a donné son avis au 32-10.
Comment, au niveau organisationnel, c'est déjà pas au point, rien que pour les personnes âgées. Comment ils vont organiser ça sur toute une ville? Moi, j'y crois pas du tout. Et depuis janvier, regardez, je suis toujours pas vaccinée. Et j'ai des collègues qui ont plus de 50 ans, qui ne sont toujours pas vaccinés, également malgré leurs demandes.
Mais Céline a une demande à Emmanuel Macron et au gouvernement.
Moi, personnellement, je préfère qu'on me donne pas d'échéance et qu'on me dise clairement, on ne sait pas.
Je vous rejoins. Disons clairement, je ne sais pas. Alors, si on demandait à notre ami Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL, notre expert du on ne sait pas. Tiens, si nous lui avons posé cette question, tous les Français pourront-ils se faire vacciner avant la fin de l'été? Qu'aurait-il répondu?
Eh bien, on ne sait pas.
Eh ben voilà. Vous l'avez, votre on ne sait pas. Et aujourd'hui, dans les auditeurs à la parole, nous avons assisté, Pascal, à un interrogatoire.
Quel âge ont les enfants?
Bon, ils sont grands. Il y a que la petite dernière qui a 16 ans.
Est-ce qu'elle sort à 16 ans?
Eh ben non, elle est très respectueuse. Elle revient du lycée, il est 16h passé.
Est-ce qu'elle a un petit copain à 16 ans?
Oui.
Ah, vous le connaissez?
Oui.
Et vous en pensez quoi?
Vous êtes indiscret.
Ah oui, je suis complètement... Ça me passionne en fait, la vie des gens.
Mais le questionnaire, ne s'arrête pas là. Hein.
Elle veut faire quoi?
Pilote de chasse.
Ah non, mais c'est étonnant. Et pourquoi elle veut être, à votre avis, pilote de chasse?
Elle aime bien le milieu militaire. Mère, elle nous a dit, si je ne peux pas être pilote de chasse, ce sera soit gendarme, soit je serai dans l'armée de terre. Donc, on sait déjà qu'elle veut être militaire.
Oh, vous êtes de bonne humeur et très belle imitation, Pascal. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se sent, et Greg l'a bien remarqué.
Vous êtes sûr que ça va?
Pourquoi?
Parce qu'en général, vous êtes un peu ronchon, et aujourd'hui, vous voyez le verre à moitié plein, vous souriez.
Pas du tout, mais vous êtes une... Pas d'Elisabeth, je suis ronchon.
Non, mais... Alors, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est l'extase pour vous.
Oh, oui. Aujourd'hui, ça passe. Hein. Et pour vous, soyez encore
ça
plus joyeux... Ça passe crème. Oh, c'est beau. Et pour vous, soyez encore plus joyeux, Pascal, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a pris la parole.
Le confinement n'est pas une fatalité. La, 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 la.
Allez, encore plus de sourires pour terminer l'émission. Vous l'avez adoré hier. Quelle est la blague du jour?
Madame Méa Descendre a une fille.
Madame
Méa Descendre.
Méa Descendre
a une fille.
Méa Descendre.
Edmé.
Ah oui.
Ouais, bon, faut mieux faire. Allez, on commencera demain. Le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui ne fonctionne plus depuis le Covid et le couvre-feu. Qui ça?
J'adore ce moment du débrief de Monsieur Tessier parce qu'il annonce l'arrivée de l'unique star, la blondeur qui entre dans ce studio. Madame Flamand. Himself. A tout de suite.
Je pense qu'on dit herself.
Herself, pardon.
C'est une femme, après.
J'ai toujours été nul en anglais.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.